Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 29 janvier 2021. Abdourahmane Diallo, présentation, voici les titres. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga dépose sa démission 48 heures après une motion de censure renversant son gouvernement. Les récentes violences en Centrafrique ont provoqué le déplacement de plus de 200 000 personnes selon les Nations Unies. La justice néerlandaise condamne en appel la compagnie Shell à indemniser des fermiers nigérians. Pandémie de Covid-19, la propagation de nouveaux variants du virus inquiète à travers le monde. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a finalement remis sa démission au président Félix Tshisekedi, mettant fin au suspense sur un possible bras de fer. Le point avec Eddy Isongo.
Sylvestre Ilunga Ilukamba est allé voir le président Félix Tshisekedi aussitôt qu'il a reçu la notification du bureau d'âge de l'Assemblée nationale l'informant officiellement du vote mardi par 367 députés de la motion de censure. Il a affirmé avoir tiré les conséquences et accepte de se plier, même s'il accuse le bureau d'âge d'avoir violé la Constitution et les règlements intérieurs de l'Assemblée en s'attribuant des prérogatives qui ne lui sont pas dévolues. Le bureau définitif qu'il pensait attendre ne sera élu que le 3 février. La Constitution lui donnait 24 heures pour remettre sa démission après sa déchéance. Sa démission consacre la rupture de la coalition entre les caches du président Tshisekedi et les FCC de l'ancien président Joseph Kabila dont il est issu. Hier, l'informateur nommé par M. Tshisekedi a rendu les conclusions des missions d'identification de la nouvelle majorité.
Toujours en RDC, deux cultivateurs ont été tués jeudi par deux éléphants qui ont envahi leur champ près du parc national de Virunga dans l'est du pays. La population en colère a tenté de marcher contre le PNV. Le parc compte étendre la clôture électrique au-delà des 156 km actuellement installés pour sécuriser les riverains ainsi que leur champ de la prédation des animaux. Les violences en Centrafrique ont déplacé plus de 200 000 personnes en moins de deux mois, dont un peu plus de la moitié ont fui vers les pays voisins. C'est ce qu'a indiqué l'ONU ce vendredi. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, 92 000 Centrafricains sont arrivés en République démocratique du Congo. Plus de 13 000 autres ont fui au Cameroun, au Tchad et au Congo depuis le lancement en décembre d'une offensive de groupes armés. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a ajouté que 100 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. D'après le HCR, je cite, « l'instabilité persistante pose des difficultés pour accéder aux déplacés et la route principale pour ravitailler Bangui a été fermée. Des groupes armés se trouvent près de Bantagafo et Bria où des déplacés ont trouvé abri, selon l'agence onusienne. » Le gouvernement a décrété cette semaine l'état d'urgence pour 15 jours sur l'ensemble du territoire, dont les deux tiers sont contrôlés par les rebelles. La Centrafrique est au cœur du sommet régional qui se tient aujourd'hui à Luanda, en Angola.
La justice néerlandaise a condamné ce vendredi en appel Shell à verser des indemnisations dans un procès de longue date intenté par quatre fermiers nigérians qui accusent le géant pétrolier de fuite de pétrole ayant détruit trois villages. Les précisions de John Lyndon.
L'entreprise Shell Nigeria est condamnée à indemniser les agriculteurs pour les dommages, a déclaré le juge lors d'une audience à La Haye, sans préciser combien d'entre eux recevront ces indemnisations, dont le montant sera déterminé à une date ultérieure. La maison mère royale de Shell est aussi tenue d'équiper l'oléoduc en cause dans l'un des villages d'un système de détection des fuites afin que les dommages puissent être limités à l'avenir, a-t-il indiqué. Soutenu par la branche aux Pays-Bas de l'Organisation internationale Les Amis de la Terre, quatre fermiers et pêcheurs nigérians avaient saisi la justice en 2008, demandant que l'entreprise anglo-néerlandaise paye les travaux de dépollution et leur verse des indemnités. Les plaignants, dont deux sont décédés depuis le début de cette bataille judiciaire vieille de 13 ans, réclamaient également que Shell nettoie les dégâts dans leur village, dans le delta du Niger. Shell a toujours attribué la pollution à du sabotage et assure avoir nettoyé les lieux. Les deux parties ont la possibilité de se pourvoir en cassation.
L'édition 2021 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, principal festival africain du 7e art, qui devait se tenir du 27 février au 6 mars, a été reportée ce vendredi en raison du coronavirus. Le Burkina Faso, où 10 423 cas de COVID-19 ont été confirmés depuis le début de la pandémie pour 120 décès, connaît, comme le reste de l'Afrique de l'Ouest, une deuxième vague plus importante que la première. Depuis 1969, date de sa création, le FESPACO rassemble à Ouagadougou des dizaines de milliers de spectateurs et acteurs du milieu du 7e art. L'émissaire de l'ONU a fait part vendredi de sa déception après les discussions sur la constitution syrienne cette semaine à Genève, en expliquant que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la méthodologie de travail. La révision de la constitution figure dans la résolution 2254 adoptée en décembre 2015 par le Conseil de sécurité, qui prévoit également l'organisation d'élections sous la supervision des Nations Unies. L'ONU espère que ce processus ouvrira la voie à une fin du conflit qui a fait plus de 380 000 morts depuis 2011.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont enfin entamé aujourd'hui à Wuhan, dans le centre de la Chine, leur enquête de terrain sur l'origine du coronavirus qui doit les conduire sur des sites sensibles. Pendant ce temps, les nouvelles contaminations au coronavirus ont décéléré dans toutes les régions du monde cette semaine. Bagasikura.
La pandémie a de nouveau fortement décéléré cette semaine dans le monde avec 564 300 nouveaux cas, c'est-à-dire moins de 11% par rapport à la semaine précédente. Les contaminations avaient ralenti dans des proportions similaires la semaine précédente. Toutes les zones ont connu des ralentissements plus ou moins marqués. Moins 18% en Afrique, moins 16% aux États-Unis, Canada, moins 10% en Europe. Le virus ne circule quasiment pas en Océanie, 10 cas par jour, soit moins 56%. Les experts de l'ONU ont enfin commencé aujourd'hui à Wuhan, en Chine, leur enquête de terrain sur l'origine du coronavirus qui doit les conduire sur des sites sensibles. Sortis jeudi de 14 jours de quarantaine, les membres de l'équipe ont discuté avec des scientifiques chinois avant de se rendre dans un hôpital de cette ville où la pandémie a démarré en 2019.
Les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne ont approuvé vendredi une proposition de la Commission européenne prévoyant une nouvelle cartographie des zones les plus touchées par le virus et des restrictions de circulation plus strictes pour ces régions. Le Portugal, où les contaminations explosent, a décidé d'interdire les voyages non essentiels à l'étranger pendant 15 jours. La Belgique a pris une mesure identique depuis mercredi, et ce jusqu'au 1er mars. L'Allemagne, de son côté, envisage une réduction drastique du trafic aérien avec des pays qu'elle considère comme les plus affectés par les nouveaux variants du coronavirus. La Turquie a appelé ce vendredi les États-Unis à revenir dans l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien et à mettre fin aux sanctions contre Téhéran en recevant le chef de la diplomatie iranienne Javad Zarif. Nous sommes prêts à respecter nos engagements lorsque les États-Unis le feront aussi, a pour sa part déclaré M. Zarif. La nouvelle administration démocrate de Joe Biden s'est déclarée prête à réengager les États-Unis dans l'accord quitté en 2018 par Donald Trump, mais Washington et Téhéran attendent chacun de leur côté un premier pas de l'autre. Les talibans ont accusé ce vendredi les États-Unis de violer l'accord signé en février 2020 à Doha et d'avoir bombardé des civils peu après que Washington leur a reproché de ne pas respecter leurs engagements prévus dans le cadre de cet accord. Le porte-parole des talibans affirme qu'ils sont toujours déterminés à respecter l'accord de Doha qui prévoit le retrait total des troupes américaines d'Afghanistan d'ici le mois de mai. L'armée américaine a mené ces derniers mois plusieurs frappes aériennes contre les talibans en soutien aux forces gouvernementales afghanes.
En Chine, un militant tibétain qui avait été condamné à 5 ans de prison pour incitation au séparatisme a été libéré, a annoncé son avocat ce vendredi. Tashi Wangchuk, un défenseur de la langue tibétaine, a été condamné en 2018 par la justice chinoise sur la base d'un documentaire du New York Times en 2015. Le militant y dénonçait un déficit d'enseignement de la langue tibétaine dans les écoles du Nord-Ouest, peuplées de nombreux Tibétains, évoquant un massacre systématique de la culture locale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Dani Talani.
Le Tchad et le FMI ont abouti à un accord sur un nouveau programme de 4 ans au titre de la facilité élargie du crédit et du mécanisme élargi de crédit à hauteur d'environ 560 millions de dollars. Ce programme aidera le gouvernement tchadien à renforcer la riposte face à la pandémie, à jeter les bases d'une reprise économique verte et inclusive, à rétablir la viabilité de la dette, à favoriser la croissance inclusive et à réduire la pauvreté. Le Gabon veut produire plus de 50% de sa consommation alimentaire d'ici à 2025, a annoncé la première ministre Rose Christiane Osuka-Raponda pendant la présentation du plan triennal 2021-2023 à Libreville le 18 janvier. Grâce à ce plan, le gouvernement réduira de moitié sa facture d'importation alimentaire qui s'élève annuellement à 550 milliards de francs CFA. Le Gabon mise sur des filières comme le manioc, la banane, la pêche et les légumes. Malgré les atouts dont regorge le pays, l'agriculture contribue pour moins de 10% au PIB. Pour terminer, le Botswana lance l'enquête sur la mort de 11 éléphants dans la réserve de chasse de Moreni, selon le gouvernement, qui écarte les soupçons de braconnage, car les défenses des éléphants ont été retrouvées intactes. Ces décès interviennent des mois après la mort de 330 éléphants près des franges du delta de l'Okavango, l'une des principales destinations touristiques du continent pour les amoureux de la faune.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. C'est demain que commencent les matchs des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Les deux premières rencontres mettront aux prises le Congo et le Mali, puis la République démocratique du Congo défiera le pays hôte, le Cameroun, dans le derby de l'Afrique centrale dimanche. La Guinée fera face au Rwanda et la Zambie rencontrera le Maroc. Comment se préparent les équipes de Yaoundé au Cameroun? La correspondance de Manuel Jiluntap.
Après avoir été testé positif au Covid-19, l'entraîneur de Léopard à prime retrouve ses poulets ce samedi et conscient que son équipe livre un match crucial au stade de Japoma à Douala. Florent Ibengue.
On n'a pas envie de laisser notre chance à qui que ce soit, même si c'est le pré-organisateur. Si on doit tomber, ben, qu'on tombe dans les armes à la main. Samedi, on a une chance sur 8 à jouer et on a envie de la jouer à fond.
L'effectif de la RDC est cependant réduit face au Cameroun. 9 joueurs congolais testés positifs au Covid-19, dont 2 gardiens de but, sont encore en quarantaine. Selon l'analyste sportif Bobo Fabien, cette situation présage un match plutôt ouvert.
Le Cameroun a son atout. C'est son mental, c'est ça, son impact physique dans le jeu. Je crois que ces atouts-là, si le Cameroun les exploite, il peut causer des difficultés à cette équipe de la RDC. Mais la RDC va favorite au vu de ce qu'elle a produit pendant les matchs de poule par rapport au Cameroun.
L'autre quart de finale met aux prises le Mali et le Congo. Le match annonce difficile. Barthélémy Ngatsonou est l'entraîneur de la sélection congolaise.
Le Mali, c'est un gros calibre de la compétition. On s'est entraîné en conséquence pour maximiser les chances de notre côté. Vous savez que nous n'avons pas de compétition, donc on a quelques blessés. Nous avons 26 joueurs, donc si on peut enlever 2 ou 3, ça ne gêne rien, parce qu'à ce niveau, il y a la complémentarité qui exige maintenant que chaque joueur soit adapté à tel ou tel autre poste.
Les matchs des quarts de finale vont se disputer avec des gradins remplis à 50% des spectateurs au lieu de 25% lors des matchs de groupe. La CAF insiste toutefois sur le strict respect des mesures barrières. Michel Mbarga Dissaké, directeur du tournoi CHAN 2020.
Pour la population camerounaise, celui qui n'aborde pas son masque sera expulsé du stade. Celui qui le mettra après avoir accédé et une fois installé au stade, retire son masque, sera expulsé par les volontaires ou les forces de maintien.
Les deux derniers matchs des quarts de finale se disputent ce dimanche. Le Maroc affronte la Zambie et la Guinée croise le fer contre le Rwanda. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En République du Congo, deux opposants appellent les démocrates à se lever pour contraindre le pouvoir à mettre fin au processus électoral en cours. Paulin Makaya de l'UPC et Clément Mierassa de la Fédération de l'opposition demandent un dialogue sincère alors que l'élection présidentielle est prévue en mars prochain. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Les deux opposants ont demandé dans une lettre adressée au président Sassou Nguesso de suspendre le processus électoral en vue de l'élection présidentielle de mars 2021 et de rassembler toute la classe politique. Pour Clément Mierassa, le processus électoral est illégal ainsi que la candidature du président de la République.
Nous disons au président, arrêtez ce coup de force électoral.
Ce n'est pas clair.
Même si le président Sassou est déclaré élu, s'il ne nous suit pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il fait ce coup de force, s'il n'y a pas un dialogue dans ce pays, le pays n'avancera pas. Le pouvoir, ce n'est pas fait pour emprisonner et écraser les gens. Le pouvoir, c'est fait pour résoudre les problèmes des populations et les problèmes de la cité.
Plusieurs militants et membres de la société civile sont venus assister à cet échange avec les médias. Paulin Makaya a annoncé que l'opposition ne permettra pas que la majorité présidentielle confisque à nouveau le processus électoral. Avec ses propres mots, il en définit les moyens.
Mais pensez-vous que aujourd'hui, c'est le même ministre de l'Intérieur qui a la charge de proclamer les élections? Il va venir dire au peuple congolais que son champion n'a pas gagné? Est-ce que cela est possible? Et s'il nous écoute, c'est bien. Si nous écoutons pas, nous allons nous retrouver à nouveau pour donner notre position finale. Parce qu'on ne peut plus accepter, parce que le pays est exempt. Rien ne marche. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à assister les mêmes pour faire la bamboula? Nous disons non. Il faut maintenant que le président le sache. Le Congo est un patrimoine commun. Je pense que c'est vrai, non?
C'est pour la première fois depuis plusieurs années que Clément Mierassa et Paulin Makaya se sont affichés en public pour faire des revendications politiques communes. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
De nouvelles variantes de Covid-19 continuent d'apparaître, parmi lesquelles les variants sud-africains et britanniques dont on parle assez souvent ces derniers temps. Certains sont considérés plus dangereux et de se propager plus facilement. Que sait-on de ces nouveaux variants? Nanit Talani a joint à Abidjan le professeur Axel Koblan Avoni, enseignant-chercheur à l'université de Cocody.
Ce que je sais, et qui est reconnu internationalement, ce sont ces variants-là. L'Afrique du Sud, dans le Brésil, à l'Angleterre, à la Grande-Bretagne, d'autres pays, là, je crois qu'en Argentine aussi, et puis maintenant la souche d'origine venue de Chine. On n'a pas encore signalé de variant en Chine, en plus la souche au niveau de la banque de sa vie. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 5 variants, 5 Covid qui sont en circulation.
Cela veut dire qu'on peut s'attendre à d'autres nouveaux variants dans le futur?
Bien sûr. On sait que le virus mute. Actuellement, on doit s'attendre à ce qu'il y ait d'autres mutations. Peut-être qu'il y aurait un virus de Côte d'Ivoire, peut-être qu'il y aurait un virus du Mali, un virus du Maroc, un virus de... C'est ça qu'il faut craindre. C'est que chaque continent ou chaque pays, ou groupe de pays et sous-régions du monde ne développe son propre variant du Covid.
On aimerait savoir si les vaccins actuels seront efficaces contre les nouveaux variants.
On ne sait pas encore. Et il y a des fortes chances qu'ils ne le soient pas. Puisque c'est justement le problème de trouver des vaccins contre les maladies virales, c'est ça toute la difficulté. Puisque les virus mutent en tout moment, le coronavirus, il y a plusieurs formes de coronavirus. Le coronavirus qui s'en trouve dans les visons, le coronavirus qu'on trouve dans la volaille, le coronavirus dans la sorte d'origine animale, sorte d'origine aviaire. Donc, la première fois que ce virus a été isolé, c'était sur les. C'était d'abord les vétérinaires qui le connaissaient. Ça a été isolé d'abord sur les poulets, je crois, en 72, quelque chose comme ça. Donc, le départ de reçu, vaccin ou pas vaccin, on ne sait pas, en fait. On nage en plein brouillard, car il faut sécuriser, il faut tranquilliser les populations, les gens vont vous vacciner. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas impossible.
Professeur, est-ce que ces variants rendent plus malades que le nouveau coronavirus qui a commencé en mars dernier?
Oui, d'après les grands ceux qui ont les moyens, les plus grands laboratoires en Europe, aux États-Unis, on avait cette conclusion-là. On a cette conclusion que les variants vont être plus contagieux et plus meurtriers que le virus d'origine. Parce que c'est destiné, malheureusement.
Ok, qu'est-ce que les pays pourraient faire ou devraient faire pour se protéger contre les nouveaux variants?
En Afrique, surtout, moi je parle de l'Afrique. Il faut renforcer, il faut que l'État, nos États mettent les moyens à disposition de la recherche scientifique aussi pour que nous aussi nous puissions participer. Les pays africains, les chercheurs africains, plus les scientifiques africains, puissent aussi travailler sur ce virus. Bon, apparemment, on a encore le cas. C'est de renforcer les mesures barrières, de reprendre, de relancer la campagne pour l'observance des mesures barrières d'abord. Et qu'on peut faire pour freiner la propagation du virus, la fermeture des frontières, malheureusement, n'a servi à rien. Les frontières terrestres, ça a été la mesure qui a le plus pénalisé l'économie à échelle humaine, je veux dire. Les petites gens, les gens qui font le commerce transfrontalier, on a laissé ouvert les frontières aériennes, on a ouvert la frontière aérienne et le virus nous vient par voie aérienne. Alors, on peut voir tout ça. On vaccine des gens avant leur départ, mais l'efficacité de ce vaccin pose problème à l'échelle internationale. Tous les grands scientifiques.
Le professeur Axel Koblon Avoni, enseignant-chercheur à l'université de Cocody à Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que la crise humanitaire au Yémen ainsi que les relations des États-Unis avec la Russie et la Chine font partie de ses priorités immédiates. Cindy Sen, correspondante de la VOA à Washington, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Respectant les mesures contre COVID-19, Anthony Blinken a affiché l'optimisme de son premier jour de travail.
C'est un nouveau jour pour l'Amérique, un nouveau jour pour le monde.
Dans son nouveau rôle, Blinken s'est entretenu pour la première fois avec les journalistes. Interrogé sur les mesures prises par l'administration Trump, quelles seraient les premières à être examinées, Blinken a déclaré qu'il va scruter particulièrement les sanctions contre les Houthis qui pourraient entraver l'aide humanitaire au peuple yéménite.
Il est d'une importance vitale, même au milieu de cette crise, que nous fassions tout ce que nous pouvons pour apporter une aide humanitaire au peuple du Yémen qui en a désespérément besoin.
Interrogé sur la Chine, il a dit qu'il était d'accord avec la condamnation par l'administration précédente du traitement réservé aux musulmans ouïghours par Pékin.
Mon jugement reste qu'un génocide a été commis contre les Ouïghours. Cela n'a pas changé.
Au Capitole, la Chine a également été évoquée lors d'une audience de confirmation de Linda Thomas-Greenfield, nommée par Joe Biden au poste d'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. La diplomate de carrière a cherché à dissiper les inquiétudes selon lesquelles elle pourrait ne pas être assez dure envers la Chine.
Sénateur, si je suis confirmé, je m'engage à travailler avec ce comité pour contrer la Chine aux Nations Unies, lutter contre tous les efforts de nuisance du gouvernement chinois dans la rédaction des résolutions de l'ONU.
Pour Thomas Greenfield, le succès de la Chine sur la scène internationale dépendait du retrait de l'Amérique du leadership mondial. Cela ne se produira pas sous ma direction, a-t-elle ajouté.
Et c'est ce qui met fin à ce journal, à la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. La présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Des dizaines de milliers de citoyens russes dans plus de 120 villes et villages de Saint-Pétersbourg et Moscou à l'ouest, à Irkoutsk et Yuzno-Sakhalinsk à l'est, se sont rendus le week-end du 23 janvier à manifester pacifiquement contre l'arrestation du chef de l'opposition Alexei Navalny et exiger sa libération. Navalny, avocat et militant anticorruption, a été arrêté le 17 janvier à l'aéroport Cheremetyevo de Moscou à son retour d'Allemagne, où il se remettait d'une tentative d'assassinat par un agent neurotoxique. L'arrestation, qui a été diffusée en direct en Russie par des journalistes indépendants, a donné lieu aux plus grandes manifestations non autorisées sous le règne du président russe Vladimir Poutine. Les États-Unis soutiennent le droit de tous les peuples de manifester pacifiquement, la liberté d'expression, a tweeté Rebecca Ross, porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Moscou. Les mesures prises par les autorités russes suppriment ces droits. La réponse de la police a d'abord été relativement discrète, mais alors que la foule de manifestants augmentait et refusait de se disperser, la police anti-émeute lourdement blindée a commencé à tirer au hasard sur la foule, a procédé à de nombreuses arrestations. Dans tout le pays, plus de 3700 personnes ont été incarcérées. Les efforts continuent pour supprimer le droit des Russes à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression. L'arrestation de la figure de l'opposition Alexei Navalny et la répression des manifestations qui ont suivi sont des indications troublantes de nouvelles restrictions de la société civile et des libertés fondamentales, a déclaré Ned Price, porte-parole du département d'État américain. Le droit des Russes de se réunir pacifiquement et de participer à des élections libres et équitables est inscrit non seulement dans la constitution du pays, mais aussi dans les engagements de la Russie à l'OSCE, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans ses obligations internationales en vertu du pacte international relatif aux droits civils et droits politiques. Les États-Unis demandent aux autorités russes de libérer toutes les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits universels et la libération immédiate et inconditionnelle d'Alexei Navalny. Nous exhortons la Russie à coopérer pleinement avec l'enquête de la communauté internationale sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny et à expliquer de manière crédible l'utilisation d'une arme chimique sur son sol, a déclaré le porte-parole Price. Les États-Unis se joindront à nos alliés et partenaires pour défendre les droits de l'homme, que ce soit en Russie ou partout où ils seront menacés.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.